Alice Ekman, bonjour.
Bonjour.
Dans Rouge Vif, l'idéal communiste chinois, vous vous attelez à déconstruire une idée reçue, celle qui voudrait que la Chine ne soit plus communiste depuis 1978, date à laquelle ont été lancées des réformes et l'ouverture voulue par Deng Xiaoping. Pour vous, au contraire, la Chine est plus rouge que jamais, rouge vif, c'est ça?
Oui, en tout cas, je pense que l'analyse externe qui était faite de la Chine, c'est-à-dire que c'était souvent les observateurs étrangers à la Chine qui souhaitaient voir une Chine qui allait se libéraliser, qui allait se réformer progressivement dans une direction qui était souhaitée notamment par les investisseurs étrangers qui voyaient dans la Chine un Eldorado. Ces voeux, clairement, ne sont pas matérialisés. Et je pense qu'il faut aussi prendre en compte, en premier lieu, le fait que cette perception est externe, encore une fois, et que la Chine elle-même, c'est toujours définie comme communiste, avec plus ou moins de vigueur, mais depuis la création de la République populaire de Chine en 1949, l'identité communiste a toujours été centrale dans la définition du système politique en place. Ce qui est intéressant de noter réellement, et c'est ce sur quoi je me suis concentrée dans Rouge Vif, c'est l'évolution depuis Xi Jinping.
Voilà, parce que pour vous, l'accession au pouvoir de Xi Jinping signe ce renouveau.
Oui, alors c'est pas un renouveau total, c'est-à-dire qu'il y avait un socle idéologique, conceptuel et de propagande rouge, mais Xi Jinping s'attache à le revigorer de manière assez claire. On a aujourd'hui 7 ans de recul depuis le début de son mandat présidentiel en 2013. Il a renforcé le poids des cellules du parti dans les entreprises, bien sûr dans l'entreprise publique, mais notamment dans un nombre croissant d'entreprises privées. Il a renforcé l'enseignement du marxisme-léninisme dans les universités. La rhétorique rouge, le jargon rouge que je cite largement dans le livre pour pouvoir le présenter, parce que c'est un jargon très particulier qui est répandu au sein du parti, mais les observateurs extérieurs n'ont pas toujours conscience que le parti utilise toujours une rhétorique marxiste, parlant de victoire du socialisme sur le capitalisme à terme. Alors ça étonne. L'analyse souvent qui est partagée, c'est de dire que tout cet habillage rouge n'est que cynisme et que les dirigeants chinois n'y croiraient pas. Tout d'abord, moi, je n'ai pas d'éléments pour dire que Xi Jinping n'y croit pas, mais surtout, il fait référence à ces éléments rouges avec tellement de vigueur que, clairement, de mon point de vue, c'est plus qu'une simple utilisation politique pour se maintenir au pouvoir.
Vous êtes attelé effectivement à lire ces longs discours et il y a beaucoup de références au marxisme, au socialisme.
Oui, aujourd'hui, Xi Jinping appelle au renforcement de ce qu'il appelle la pureté idéologique, notamment en mettant en place depuis 2013 des mouvements parfois appelés anticorruption, mais qui sont souvent des mouvements de cadrage et recadrage politique et idéologique avec l'apprentissage des paroles de Xi Jinping, qui se présente non seulement comme un grand penseur marxiste, mais comme la personne qui va dans le monde revigorer le socialisme et à terme le communisme. Il considère que le communisme n'est pas mort avec l'érosion de l'URSS, que la Chine va prouver qu'il n'est pas mort, et notamment il va prouver qu'il s'agit d'un marxisme moderne. Et ce qui est intéressant dans l'analyse des discours de Xi Jinping, c'est que l'on voit vraiment un investissement très fort dans les nouvelles technologies. Xi Jinping prône un marxisme technologique connecté, moderne, en accord avec son temps. Il insiste sur le fait que la Chine n'est pour l'instant qu'à l'étape primaire du socialisme. C'est-à-dire que, dans le jargon de la République populaire de Chine actuelle, le communisme est un idéal vers lequel le pays doit tendre et il n'y est pas encore arrivé, mais il faut qu'il persévère dans cette voie. Et on se demande même si les réformes entreprises sous l'ère Deng Xiaoping dans les années 80 n'étaient pas un détour pour mieux revenir au socialisme, à juste voie de socialisme, un peu comme Lénine l'avait espéré de ses voeux avec le lancement de la NEF. C'est-à-dire que c'était des réformes économiques qui prenaient une certaine libéralisation, certes, mais limitée dans le temps, pour faire face aux problèmes économiques actuels, mais pour ensuite mieux revenir, c'est-à-dire un détour par le capitalisme pour revenir en meilleure forme dans la juste voie du socialisme. Alors ça nous paraît étonnant, ce type de rhétorique, mais c'est quand même important de noter que c'est celle-ci qui est soulignée aujourd'hui au sein du Parti communiste chinois et que ces références rouges ne sont pas que rhétoriques, parce qu'encore une fois, il y a des conséquences sur le fonctionnement de l'économie, sur le type d'enseignement qui est prodigué dans les universités, sur le type de communication et aussi sur le calendrier, le rythme politique finalement de la Chine, parce que nous sommes en 2020, l'année prochaine, à partir de juillet 2021, sera célébré les 100 ans du Parti communiste chinois. Et donc, il y a ces grands rassemblements d'héritage soviétique qui rythment le calendrier, pas uniquement politique, mais social de l'ensemble du pays, et qui, je pense, doivent aussi être pris en compte dans la période actuelle, parce que cette échéance est importante pour prôner la victoire du Parti communiste chinois sur le Covid-19.
Alors, ce renouveau communiste a aussi des implications sur le reste du monde que vous détaillez dans votre livre. On voit émerger donc une nouvelle classe de diplomates et de fonctionnaires avec un discours nouveau.
Oui, vous avez raison. Ce n'est pas propre uniquement à la diplomatie, mais c'est vrai que ces dernières semaines, nous l'avons observé dans les communications sur les réseaux sociaux, par exemple, dans les communications des ambassades de Chine à l'étranger, notamment en France. Mais cette tendance est plus large. Depuis le début du mandat de Xi Jinping, mais aussi notamment depuis 2013, Xi Jinping a appelé à la confiance en soi. C'est-à-dire que la Chine ne doit pas être dans l'introspection, dans la remise en cause. Elle doit projeter une forte confiance en soi. Et Xi Jinping parle des quatre confiances. Confiance en son propre système politique, en ses propres théories, donc théories marxistes, influence marxiste, en sa propre culture et en sa propre voie, c'est-à-dire voie de développement. De manière générale, on note une stratégie de communication qu'on pourrait qualifier de riposte systématique. C'est-à-dire non seulement les forces occidentales hostiles, les forces capitalistes n'ont pas à nous critiquer ou à remettre en question notre voix et nos choix, mais maintenant, il ne faut plus hésiter à riposter et à renverser la critique. Et ça, c'était un mot d'ordre qui a été donné au plus haut niveau il y a quelques années et qu'on retrouve avec une certaine virulence dernière semaine et certains mois. Pourquoi je mets en perspective en parlant de la tendance plus longue? Parce qu'à mon avis, cette tendance ne va pas s'arrêter après la crise du Covid-19. Il est question de positionnement de la Chine sur la scène internationale, il est question aussi de reconnaissance et aussi d'une riposte face à ce qui est perçu encore aujourd'hui dans les manuels scolaire en Chine comme l'humiliation infligée par l'Occident à la Chine, notamment durant les guerres de l'opium. Donc, il y a un fort ressentiment qui existe vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de certains pays occidentaux et qui motive une communication virulente qui n'est pas le fait de quelques diplomates isolés. Hein. C'est une stratégie de communication nationale qui dépasse le ministère des Affaires étrangères, qui inclut d'autres institutions, d'autres ministères de la République populaire de Chine et qui, à mon avis, se prolongera dans les prochaines années.
Et quand vous disiez que la Chine veut avoir plus de présence sur la scène internationale, vous expliquez aussi la mise en place d'un cercle de pays amis, alors dans des relations bilatérales, mais très utile aussi au sein des organisations internationales. Et tout ça est travaillé.
Oui, tout ça est travaillé. Alors, dans l'analyse, maintenant, il faudrait nuancer parce qu'on voit que la communication de la Chine, dont on vient de parler, commence à agacer certains pays. C'est pas dans l'assistance sanitaire et logistique liée à la crise du coronavirus, mais c'est la communication, la stratégie de propagande qui l'entoure, notamment sur la compétition entre systèmes politiques, c'est-à-dire la glorification de la méthode chinoise et certains éléments de langage de la communication officielle chinoise qui soulignerait les faiblesses présumées de certains pays européens, de l'Union européenne, etc. Cette communication commence à agacer. Donc, à mon avis, le cercle de pays amis de la Chine dans ce contexte ne va pas s'étendre, mais il est sûr que la Chine n'est pas isolée et que ce cercle continue d'exister. En tout cas, la Chine peut continuer à compter sur plusieurs pays soutien et ces soutiens pourraient se consolider dans les prochaines années, les prochains mois, c'est-à-dire que des pays qui se positionnent plus clairement du côté, on pourrait dire, de la Chine dans un contexte de tension prolongée entre Washington et Pékin. Mais vous avez raison, la Chine, depuis 2013, souhaite élargir ce qu'elle considère être son cercle d'amis, c'est-à-dire proposer un maximum d'initiatives telles que les routes de la soie ou la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures à un nombre croissant de pays, y compris à des pays partenaires et alliés des États-Unis. Et ça, c'est important à noter parce que la Chine est finalement le challenger. Dans sa stratégie de réforme de la gouvernance mondiale, elle souhaite faire évoluer les choses, elle souhaite renforcer son influence et sa position dans certaines organisations multilatérales. Et pour cela, elle s'adresse à un maximum de pays. Donc, c'est-à-dire que finalement, apparaît une certaine confusion sur les pays qui constituent le cercle de pays amis de la Chine. Finalement, selon la communication officielle chinoise, tout le monde pourrait faire partie de ce cercle de pays amis. Au même moment, les États-Unis, eux, attendent une clarification sur la position de leur allié et partenaire par rapport à certaines initiatives chinoises telles que l'offre de 5G de l'entreprise Huawei. Donc, il y a une potentielle bipolarisation du monde, bipolarisation floue qui ne serait pas par bloc de style guerre froide, mais tout de même un clivage, à mon avis, qui va se prolonger compte tenu des tensions très fortes qui demeurent entre Washington et Pékin, puisque ces tensions sont commerciales, mais elles sont aussi technologiques, et elles pourraient être aussi demain juridiques, avec un nombre croissant d'acteurs qui appellent à traîner la Chine en justice pour qu'elle dédommage financièrement pour les coûts encourus dans le cadre de la crise du coronavirus. On ne sait pas si cela va devenir réalité. En tout cas, les tensions sont extrêmement vives. Et la Chine continuera à proposer un maximum d'initiatives et à les proposer à un maximum de pays, notamment dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Mais elle essaiera aussi de se positionner comme le meneur de la sortie de crise du Covid-19. Sortie de crise médicale, logistique, mais aussi économique et financière et technologique.
Merci Alice Ekman.
Merci.